Bonjour à tous. Alors effectivement, nous allons vous parler de l'azote potentiellement minéralisable, donc à ne pas confondre, parce qu'il y a quand même au moins deux mots et demi de commun, que nous allons co-présenter avec Laurent Varvoux de Terena. Alors, l'azote potentiellement minéralisable, qu'on appelle l'APM, c'est une mesure qui a été mise au point il y a une vingtaine d'années par le groupe InVivo, en collaboration avec le laboratoire InVivo Labs et les coopératives du réseau InVivo Agro. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on parle maintenant d'une mesure qui a 20 ans ? Et la question est très légitime, et la réponse est, à vrai dire, plutôt la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte en fertilisation où il est nécessaire de clarifier et d'expliciter les démarches qui sont mises en place sur le terrain, et que nous et les coopératives qui utilisons cet indicateur nous demandent de clarifier ce qui se cache derrière l'APM. Et c'est l'objet de notre démarche aujourd'hui. Alors, l'objectif de notre présentation, c'est d'expliquer comment a été mis au point cet indicateur et d'en faire un témoignage des terrains, de son utilisation sur le terrain, de la présence de Laurent avec moi. Nous n'aborderons donc pas la démarche d'évaluation annuelle réalisée par les coopératives du réseau InVivo Agro tous les ans, donc au sein du pôle expérimental, pôle fertile. Mais ces résultats qui nous semblent essentiels pour valider la démarche seront bien traités et feront l'objet d'une publication prochainement. Alors, si on devait présenter la carte d'identité de l'APM, voilà ce qu'on pourrait dire. L'APM, c'est le résultat d'une extraction en labo, une extraction chimique douce sur un échantillon de terre prélevé à la parcelle. Il a été mis au point à partir de la méthode décrite par Gianello et Bremner en fin des années 80 et retravaillé par le groupe InVivo Agro sur des échantillons de sol français en début des années 90. Que signifie cette mesure ? C'est une mesure qui donc provient, comme je viens de le dire, d'un échantillon de terre prélevé sur un horizon de 30 cm, qui est réalisé de la fin de l'été à la sortie hiver, l'idée étant de le coupler avec les analyses de terre. En termes de représentation, l'APM représente 0,7 à 2,5 de l'azote total du sol. On l'exprime en ppm. Pour se donner une idée, elle représente entre 5 et 70 ppm, plus classiquement 5 à 30 ppm. Tout cela étant effectivement pour l'instant assez abstrait, et j'espère que ça va se clarifier par la suite. L'APM aujourd'hui est réalisée par trois laboratoires, InVivo Labs, Proxilabo et Galis, et la mesure se fait en une vingtaine de jours, 20 à 30 jours. Alors, comment on est arrivé à utiliser l'APM comme un indicateur de la minéralisation du sol ? La première démarche est une démarche de laboratoire, donc, comme je l'ai dit, inspirée de la démarche de Gianello et Bremner, même de l'adaptation de la démarche de Gianello et Bremner. Et la première étape était de caractériser un certain nombre d'échantillons de sol, 35 pour être précise, en termes de comportement à la minéralisation. Ça veut dire qu'on les a parfaitement caractérisés dans leurs différentes composantes et qu'on les a mis à incuber en incubation longue durée. Et les résultats sont illustrés sur un exemple ici. L'intérêt, c'est qu'on a retrouvé ce qu'on avait dans la littérature, à savoir deux comportements. D'abord, un flush de minéralisation, qui est une poussée donc, d'azote minéralisé sur les 15 premiers jours. Et ensuite, une phase de minéralisation beaucoup plus stable, en particulier entre la 4e et la 30e semaine. Et tous nos échantillons, nos 35 sols, présentent finalement sur cette vitesse de minéralisation un coefficient de régression très rassurant, supérieur à 0,97, ce qui fait qu'on considère qu'on valide nos échantillons de référence. Une fois qu'on a caractérisé nos sols par de la minéralisation en incubation longue durée, l'objectif, c'est de savoir comment se comporte le résultat de notre mesure, l'APM, c'est-à-dire l'extractant décrit par Gianello et Bremner. Alors, on le compare aux deux dimensions que je viens de décrire, le flush de minéralisation et la vitesse de minéralisation. Donc, à gauche, je dois avoir un petit pointeur. Voilà. Donc, le flush, c'est pas ça, hein ? Voilà. Le flush d'azote que je vous ai décrit. On s'aperçoit que dans les deux cas, la corrélation est plutôt satisfaisante, au-dessus de 0,70. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé cette corrélation des deux dimensions de minéralisation par rapport au carbone total et à l'azote total de chacun de ces sols. Et finalement, la corrélation est meilleure avec l'APM qu'avec ces deux autres variables. Considérons ici que nous avons établi une corrélation plutôt forte avec la minéralisation en laboratoire. Pour l'utiliser sur le terrain, encore faut-il vérifier son utilisation au champ. C'est ce qui a été fait sur un grand nombre d'expérimentations courbes de réponse à l'azote, dont les résultats sont présentés ici. La première étape est de vérifier que l'APM est plutôt bien corrélée avec les fournitures basales du sol exprimées par le témoin zéro azote. Donc vous avez en haut l'expression de ces rendements témoin zéro azote. Nous sommes ici sur du maïs grain, pour alterner les plaisirs, et en fonction des classes d'APM croissantes. On a bien un rendement atteint sur ce témoin zéro azote qui augmente avec l'APM. C'est également ce qu'on observe sur blé, avec une régression qui n'est pas trop mauvaise, de 0,55 sur 125 dispositifs. On a fait le même exercice, puisqu'on était sur des courbes de réponse à l'azote, on a fait le même exercice par rapport à la dose optimale observée sur ces dispositifs. Ici, on est sur des essais dont le précédent est le colza, et vous voyez que la corrélation entre l'APM et la dose optimale est là aussi plutôt satisfaisante. Sachant qu'on a fait l'exercice de comparer la corrélation dose optimale APM par rapport à la dose optimale reliquat, symbolisée RI ici, reliquat sortie vert, qui nous sert de référence puisqu'on connaît plutôt bien son comportement. Et on s'aperçoit que la corrélation est sensiblement meilleure entre la dose optimale et l'APM. Alors, on est plutôt rassuré sur le fait que c'est bien corrélé à la fourniture en azote du sol, donc à la minéralisation du sol. Encore faut-il que notre indicateur soit sensible aux facteurs qui influencent la minéralisation du sol. Et c'est bien le cas, puisqu'on a représenté, ce sont des extraits, bien sûr, les références complètes sont disponibles dans l'article. On a corrélé les valeurs moyennes d'APM sur nos référentiels en fonction des types de sols, et on a bien une hiérarchie qui s'établit, un index de sol, on pourrait dire, entre un limon franc, un sol sableux, des argilo calcaires, etc. On retrouve bien la sensibilité sur l'APM. Et ce n'est pas tout à fait tout, puisqu'on a effectivement aussi de représenter l'impact des pratiques culturales qui influencent la minéralisation sur l'APM. C'est ce qu'on représente ici, donc deux types de sols, un limon battant et un limon argileux. Et on s'aperçoit que les valeurs d'APM sont en moyenne, vous avez les effectifs évidemment à chaque fois entre parenthèses, les valeurs sont plus faibles quand on est sur des pratiques sans apport organique, elles augmentent avec des apports organiques réguliers, elles sont plutôt importantes sur des historiques de vieilles prairies. Fort de tous ces éléments, nous avons choisi d'utiliser l'APM pour affiner le post-minéralisation de l'humus, décrit dans notre outil de plan de fumure prévisionnel qui est Epicless. Alors comment ça fonctionne? Nous avons rappelé rapidement l'équation du commifère pour calculer la minéralisation de l'humus, du sol. Et rappelons que la minéralisation de l'humus, c'est un nombre de jours normalisé multiplié par une vitesse potentielle de minéralisation. Et bien c'est exactement à ça que nous sert l'APM, c'est d'évaluer la vitesse potentielle de minéralisation. Très concrètement, comment ça se traduit? Si je schématise un peu grossièrement le cycle de l'année, on a deux grandes périodes de minéralisation. La première période au printemps, qui est directement traduite par le poste de minéralisation, et l'APM va nous permettre d'affiner ce poste-là. Et la deuxième période, c'est à l'automne, où cette période de minéralisation va nous aider à estimer un reliquat sorti hiver. Alors, je rentre un tout petit peu plus dans ce détail-là, puisque je n'en ai pas parlé avant. Si on représente notre culture sur laquelle on va calculer notre méthode du bilan, j'ai représenté juste les postes qui nous intéressent en l'occurrence, la minéralisation de l'humus, et puis notre reliquat sorti hiver. Ce reliquat sorti hiver qui, dans ce cas-là, est estimé, c'est le résultat d'un reliquat en trait drainage auquel est affecté un lessivage, ce lessivage intégrant la pluviométrie hivernale de l'année, selon le modèle de Burns. Et ce reliquat en trait drainage est finalement la somme de tous les éléments de minéralisation ayant eu cours depuis la récolte du précédent. Et en particulier, on retrouve notre minéralisation à l'automne, dans lequel l'APM va nous permettre d'affiner le post-VP. Et le modèle semble plutôt bien fonctionner. Ça n'est qu'une illustration, hein, je prends beaucoup de précautions. Mais voici un extrait des bases de données EPICLES sur plusieurs coopératives du réseau entre 2010 et 2012, classées soit par précédent, soit par type de sol. On s'aperçoit que le modèle est assez sensible aux situations, puisqu'on a des situations qui sont plus ou moins bien calées, mais en tout cas une sensibilité plutôt cohérente entre nos reliquats estimés et nos reliquats mesurés. C'est vrai aussi sur les types de sols, avec, encore une fois, des types de sols qui sont perfectibles. Ce sont encore une fois des extraits, puisque on vous a représenté que trois cas à chaque fois. Voilà, et je fais la transition du coup. C'est bien de cette utilisation terrain qu'il est important de parler aujourd'hui, et raison pour laquelle je passe la parole à Laurent, qui va vous expliquer son utilisation sur le terrain.
Merci Carole. Donc je me propose effectivement de vous présenter comment nous utilisons cet indicateur APM au quotidien dans la région, hein, puisque effectivement ma structure est concernée par la région, hein, Pays de Loire, Poitou-Charentes. Donc c'est une région très, en résumé, très variée, que ce soit en système de production ou en type de sol. On pratique beaucoup d'outils, hein, pour essayer de conseiller au mieux nos adhérents, que ce sont les analyses de sol, les APM, vous avez vu, on en fait plus de 2000 par an, qu'on intègre dans le plan de fumure EPICLES. Et par-dessus, on utilise également après des outils de pilotage, des intrants au printemps. On le verra tout à l'heure. Donc, on voulait illustrer un peu comment nous avons eu envie d'utiliser cet indicateur-là par un essai qui est d'une situation qui est pas très loin d'ici. Donc à l'origine, hein, c'était une situation cet essai-là faisait partie des essais d'origine, hein, travailler sur maïs dans des sols de marais, rotation maïs, et on avait détecté des situations avec dans ce cas-là un fort potentiel de minéralisation azotée. Vous avez la photo, hein, prise du site. Voilà ce que donnait à l'époque, hein, le résultat d'essai. Un témoin zéro avec déjà des niveaux de rendement en maïs grain très élevés. Et puis ensuite, en effet, plus on majorait la dose d'azote, plus on avait un effet dépressif de l'azote que l'on connaît bien dans la région, notamment lorsqu'on est évidemment en forte pression azotée. Eh bien, l'idée, c'est au quotidien, l'objectif, c'est quand même de donner des conseils pertinents à nos adhérents. En absence d'indicateurs, ou au moins de mesures d'APM dans notre outil plan de fumure, eh bien, le conseil aurait été de 110. Maintenant, si on réinjecte une mesure avec un potentiel très élevé, une APM très élevée, eh bien, cette fois-ci, eh bien, on voit bien le recadrage, le nouveau conseil, eh bien, correspond beaucoup plus à la dose optimale observée a priori. Donc c'est ces événements-là qui nous ont alertés sur le fait qu'il y avait évidemment certainement beaucoup d'intérêt à pratiquer cet indicateur. Alors comment on l'utilise au quotidien ? Eh bien, l'azote, hein, c'est pas facile. On est dans un système naturel complexe. Donc en fait, on va utiliser au cours du temps plusieurs outils. D'abord, l'outil de plan de fumure prévisionnel qui permet déjà de dégrossir la situation, de savoir, d'aider l'agriculteur à savoir où aller. Est-ce que c'est plutôt sur des fortes doses ou plutôt sur des faibles doses? Ensuite, Carole l'a dit, on embraye sur des campagnes d'analyse de sol sur lesquelles on fait des mesures d'APM. On verra tout à l'heure que logistiquement, c'est un atout considérable. Et ensuite, on profite au mois de janvier d'une modélisation, hein, du lessivage et de l'intégration automatique sur nos 260 000 hectares que l'on peut faire en quelques minutes, réactualiser en intégrant la pluviométrie hivernale. Hein, on est abonné à l'ensemble des stations météo sur 10 départements. On réinjecte toutes les APM qui ont été mesurées au cours de l'automne précédent. On récupère les mesures absorbées via des images satellites. Et donc l'outil réestime le reliquat azoté qui permet de faire en fait une actualisation en sortie d'hiver de la dose prévisionnelle. Ensuite, troisième possibilité pour les cultures de céréales, c'est encore une mise à jour de la dose d'azote possible en fin de cycle grâce à une actualisation donc de l'état de nutrition des cultures au printemps. Alors donc un avis d'un utilisateur au quotidien de cet indicateur-là, pour nous c'est plutôt quelque chose de facile à mettre en œuvre. Hein. Faible profondeur de sol, pas de stockage au froid, pas de soucis dans les sols caillouteux. Ça peut être fait en même temps que les analyses de sol. On met tout sur le même bulletin et évidemment on peut le faire en termes d'échéance comme les analyses de sol. Et en fait, on le pratique tous les 4 ans sur la même parcelle. Donc voilà un exemple de suivi de plusieurs parcelles de la région qui ont été faites au début des années 90 où chaque année, on revenait au même endroit précis pour vérifier si l'indicateur évoluait ou pas. On s'est aperçu qu'effectivement, cet indicateur-là était plutôt une variable de milieu qui était plutôt stable dans le temps. Et lorsqu'une situation était faible, elle le restait, sous réserve que le système de culture n'évoluait pas. Et à l'inverse, des situations élevées, le restait également. Ça nous permet de faire un conseil de masse, avant tout, plutôt facilement, avec, on l'a vu tout à l'heure, la mise à jour à azote informatisée rapide. Et puis, ça concerne toutes les grandes cultures. Toutes les cultures sont concernées là où le modèle d'estimation du reliquat fonctionne. Au quotidien également, pour nous, c'est un bon outil pédagogique parce que ça nous permet de parler agronomie et approche globale, puisque effectivement, lorsqu'on a un indicateur d'APM élevé, faible ou faible, eh bien l'agriculteur donc peut se poser des questions et on peut le renvoyer sur son type de sol, pourquoi en est-on arrivé là. C'est aussi un moyen de parier fertilisation globale. Le mot le plus important dans l'APM, c'est le potentiel. Ça veut dire que c'est aussi sensibiliser l'agriculteur sur les conditions qui permettent justement au sol de fonctionner au maximum. Et puis ça corrige et ça peut corriger l'imprécision liée à l'histoire. Lorsqu'on demande à un agriculteur l'histoire de sa parcelle, c'est pas toujours précis, ça peut être un jeune qui reprenne l'exploitation, ça peut être finalement une imprécision, un doute sur un retournement de prairie. L'APM permet de corriger facilement tout ça. Et puis surtout c'est un outil rassurant, notamment dans les situations à forte fourniture azote. Vous savez que c'est toujours plus difficile de faire baisser une dose d'azote à un agriculteur parce qu'il ne sait pas trop où il va. Et là, ça permet de le rassurer avec, au fil des temps, lui donner un indicateur pour ça. Et donc, au final, nous, ce qu'on a besoin, effectivement, c'est au nom des agriculteurs qui l'utilisent depuis une quinzaine d'années, une certaine reconnaissance, au moins une clarification par rapport à cet outil qu'ils pratiquent au quotidien. Et je laisse donc Carole pour la conclusion.
Oui, alors on va juste reprendre les différents éléments qu'on a vus. L'APM nous paraît donc être un indicateur pertinent du potentiel de minéralisation d'une parcelle, puisqu'on a vérifié cette corrélation, qu'elle est représentative à la fois du type de sol considéré et des pratiques qui vont influer ce potentiel de minéralisation. Deuxième caractéristique qui est un atout, c'est que c'est une mesure qui est stable dans le temps, moyennant que le système de culture n'évolue pas. C'est une mesure qui va être valable 4 à 5 ans, qui va du coup plutôt, comme Laurent l'a dit, représenter une caractéristique de milieu, et non pas une caractéristique de l'année. Et du coup, elle représente un atout pour affiner nos différents postes dans l'outil Epicless, en particulier ce reliquat estimé qui, dans un certain nombre de situations, est délicat à mesurer sur la parcelle et permet ainsi de disposer d'une mesure de reliquat sur toutes les parcelles de l'exploitation. Enfin, c'est une valeur qui est, mais Laurent l'a bien précisé, spécifique à la parcelle, donc qui intègre toute l'histoire de la parcelle et qui permet de mieux prendre en compte un historique qui peut être parfois difficile à cerner. En termes de prospective, ça nous paraît, parce qu'on a beaucoup parlé du passé là, quasi exclusivement, ou du présent, c'est aussi pour nous un indicateur qui reste d'actualité, notamment dans des démarches de progrès telles que la construction ou l'élaboration d'outils dynamiques, qui sont à notre sens une des voies de progrès concrètes du Conseil en fertilisation. Il peut présenter un atout, nous semble-t-il, dans l'avancée dans ce domaine. Voilà. On est terminé.
Merci beaucoup. Alors, Philippe arrive.
Laurent, tu disais que Pierre-Yves Trolliard, Macagro, tu parlais d'évolution, de reparler d'agronomie. Est-ce que la sensibilité de l'APM a déjà permis au niveau de Terena de justement caler l'évolution de pratique culturelle d'un agriculteur et l'évolution de son APM?
Oui, on l'a vu. Hein, je vais reprendre quelques exemples. Hein. À l'époque, c'est il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, quand des blés derrière des maïs. Bon, voilà, c'est comme ça. Les haïteurs mettaient une fertilisation classique. Bon, c'est des blés qui étaient, c'était des milliers d'hectares qui se trouvaient versés, quoi, complètement versés. D'accord. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Bon, il y a aussi l'évolution de la génétique, programme régulateur, mais je pense que c'était aussi un moyen de sensibiliser, de dire voilà, il y a d'autres outils, mais ça nous semblait plutôt quelque chose de plus parlant au quotidien pour dire attention. Et puis l'azote, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever quand il y en a trop. Alors voilà, vous êtes, d'où l'idée qui est capitale, et notamment pour tout ce qui est aspect environnement, les doses prévisionnelles doivent être faites le plus tôt possible. Doses prévisionnelles, ce n'est pas au mois de mars qu'il faut les faire, c'est plutôt en amont, permet déjà de répondre aux objections et de dire voilà, on va y aller progressivement. A priori, tu as un potentiel élevé, commençons peut-être par gérer une BDD, on met rien, si ça décroche pas, ben, on met toujours rien et on avance, et puis des fois, eh bien, on met rien. Ça, c'est des situations comme ça, où en 2002, par exemple, le témoin 0 en blé tendre faisait 100 quintaux sans azote.
Oui, Carole, Sylvie Recoud, l'INRA. Donc moi, j'avais deux questions, Carole en particulier. Enfin, j'étais contente de voir que tenir compte de la minéralisation du sol, ça améliore quand même la prédiction de la dose totale, que pas tenir compte. Mais je voudrais une précision sur finalement l'usage de cet indicateur à l'automne, parce que votre exposé nous montre que c'est plutôt le reflet d'une minéralisation basale, hein, parce que si c'est stable au cours des années, ça veut dire que c'est pas modifié par les pratiques récentes, par exemple la restitution de résidus, la décomposition. Donc je vois pas bien comment l'utiliser à l'automne. Bon, ça va aider à prédire le terme de minéralisation automnale, mais donc où est le terme de immobilisation due à la décomposition des résidus, la gestion des résidus? J'ai une deuxième question peut-être pour... Enfin, c'est plutôt un commentaire, mais comme l'introduction nous dit que l'indicateur correspond au calcul de MH de la méthode du bilan, qui est un stock multiplié par une vitesse potentielle. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez essayé, vous ne nous avez pas montré finalement la comparaison sur ces mêmes jeux de données de l'indice avec ce que dirait par exemple l'équation du bilan ou le terme MH d'un outil, d'un modèle donc. Hein. Donc il y a ces deux choses-là, c'est cette comparaison avec un calcul.
Ok, alors la première question, oui, j'ai volontairement, peut-être à tort, simplifié la représentation de nos calculs de notre reliquat sorti hiver pour mettre en évidence la fraction minéralisation de l'humus à l'automne. Ces éléments sont tous corrigés par, effectivement, notamment les effets cipants qui sont intégrés et qui ne sont pas intégrés, qu'on ne comptabilise pas dans cet APM-là. Très concrètement, parce que c'est vrai qu'on est passé un peu vite là-dessus, Dans l'outil Epicles, on calcule une minéralisation à partir d'un APM de référence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer une mesure à la parcelle. On peut le faire, c'est une démarche de progrès, mais on a un référentiel de base qui correspond à des situations, un référentiel que la coopérative a déployé sur un échantillon de ses parcelles le plus large possible, le plus représentatif, et qu'il intègre dans l'outil. En plus de ça, c'est là vraiment, structure du sol. Là-dessus, on rajoute tous les postes qui permettent d'ajuster, d'affiner la minéralisation sur cette période-là. Et ce n'est seulement que sur cette somme, et j'ai été trop vite, effectivement, il y a tous les effets cipants, les effets apport organique à l'automne, etc., qui sont bien compris là-dedans et sur lequel est affecté le lessivage ensuite pour calculer notre reliquat sorti hiver. Et la deuxième question... C'est la raison. Alors, donc, la question étant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas comparé notre poste calculé avec notre APM par rapport à une référence. Eh bien, à vrai dire, pour nous, le calcul d'une minéralisation le plus facilement accessible, c'est celui d'Épiclès. Et l'APM est intégré de facto dans Épiclès avec ces référentiels-là. C'est comme ça que c'est calculé. Donc c'est difficile de le représenter vraiment comparé à un poste calculé minéralisation par rapport à l'APM vu qu'il le prend en compte. C'est pour ça qu'on l'a représenté sur les reliquats, parce que les reliquats, on a une mesure terrain. Et sur ces résultats-là, c'est bien chaque parcelle, chacune des parcelles dispose d'un reliquat estimé et d'un reliquat mesuré. C'est vraiment à la parcelle. Alors, ceci dit, on aurait pu, et c'est ce qui se fait dans les essais du pool fertile, comparer notre poste de minéralisation calculé par Épiclès avec notre référentiel au poste minéralisation calculé avec une mesure d'APM intégrée. Bon, ça faisait trop de choses à balayer, donc cette partie-là, volontairement, les parties des essais sera traitée, mais très prochainement, puisqu'on prépare, Emmanuel est par là, voilà, prépare une publication dessus pour justement être plus transparent sur ces aspects-là également. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Il y a une partie de la question de tout à l'heure, Sylvie l'a posée. Par contre, quand je regarde ta comparaison entre les reliquats estimés et reliquats mesurés, tu fais par rapport à des moyennes, et on sait qu'on a une grande variabilité sur un même milieu, sur un même contexte précédent et tout, des reliquats. Est-ce que, quand on regarde cette variabilité, vous avez une comparaison qui est aussi bonne que ce que vous nous montrez là?
Alors, je vais faire un peu bêtement la même réponse. C'est que cette comparaison parcelle à parcelle, c'est aussi ce qu'on fait sur les dispositifs du pool fertile. Donc, juste pour vous préciser ces dispositifs, on a une courbe de réponse à l'azote calculée autour de la dose conseillée par Épiclès, tout poste estimé. C'est l'utilisation agriculteur d'Épiclès. Et puis, on injecte ensuite les valeurs qui vont nous permettre de tester la finesse de ces postes. L'APM, le reliquat mesuré sur la parcelle, et du coup, sur les essais, sur les dispositifs des expérimentaux, on dispose bien d'une mesure estimée par l'outil et d'un reliquat mesuré sur la parcelle. Je vais y arriver. Et c'est là où on fait ces comparaisons, parce qu'on considère qu'on maîtrise mieux notamment la mesure de reliquat, qui, sur les bases de données, est parfois un peu très étalée et peut-être moins bien positionnée par rapport à la sortie d'hiver qu'elle ne l'est sur les dispositifs expérimentaux. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Enfin,
parce que là, tu nous montres une
moyenne. C'est une illustration,
encore
une fois.
Est-ce que parcelle par parcelle...
On a une forte variabilité.
Oui.
On a une forte variabilité qu'on retrouve bien. Hein. J'aurais volontiers comparé à la présentation d'avant, que je n'ai pas là, puisqu'encore une fois, on le fait sur les essais. On ne le fait pas sur les bases de données,
non,
parce qu'on considère que c'est trop variable.
Je suis d'accord avec toi. Mais...
Par contre, sur les essais, l'approche des essais pool fertile qui, j'espère, répondra plus précisément à ta question. Mais évidemment... La grande question sur cette partie reliquat, c'est qu'il y a une variabilité dans l'estimation, il y a une variabilité sur la mesure sur le terrain. Alors, ce qu'on fait habituellement, ce qu'on travaille avec les coopératives, c'est, et ce n'est pas tout à fait ça, c'est de reprendre les tableaux de synthèse annuels reliquat, entrée, type de sol précédent, et de voir si on matche bien par classe. Parce que c'est pareil, ces référentiels-là ont une certaine diversité derrière auquel on n'accède pas, puisqu'on sait un tableau de synthèse. Du coup, c'est pour ça qu'on préfère s'appuyer sur les essais pour faire ces comparaisons-là, parcelle à parcelle.
Bonjour, David Leduc, Chambre d'agriculture Loire-Atlantique. Donc moi, ça fait 10 ans que j'attendais un peu une présentation sur l'APM. Parce que j'ai la chance de participer au groupe Azote du Conifère. Et donc, je suis impatient de voir la publication, parce que j'avoue que je comprends toujours pas, j'ai toujours pas la réponse sur la sensibilité et le gain qu'on a à faire l'analyse vis-à-vis de données qu'on pourrait avoir déjà d'une par la matière organique, puisqu'elle est mesurée dans l'analyse de sol, et puis éventuellement des données système, quoi, c'est-à-dire j'apporte fréquemment des apports organiques. J'ai du mal à mesurer... et de percevoir l'intérêt de faire l'analyse vis-à-vis d'une information qu'on pourrait acquérir sans analyse, quoi, finalement. Donc je suis impatient de lire le papier, quoi. À moins que vous ayez une réponse de suite. Merci.
Donc, là, c'est juste aussi pour reprendre, peut-être ça peut répondre à la question, mais là, c'est, je présente, il est peut-être dans la salle, le gros travail qui est fait par Bruno Chevalier dans la chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire, qui est à côté, là. C'est-à-dire, effectivement, par rapport au reliquat, effectivement, soit en mesure, mais bon, là, en fait, il représente, ce graphe représente donc la variabilité des reliquats dans une région donnée. Donc, c'est la Touraine. Effectivement, et donc c'est des blés, et là c'est les précédents. Et donc vous voyez que justement là j'ai pris par exemple le précédent colza pour des blés, la moyenne 31. Et, bon, vous voyez la très grande variabilité des intra-situations. Pourtant c'est des situations qui sont plutôt resserrées. Comprenez bien qu'aujourd'hui, et c'est un peu c'est ce qui se passe dans certains arrêtés où on va obliger un peu les arrêteurs à faire des mesures de reliquats. Effectivement, s'il en fait, c'est bien, tant mieux, mais. Qu'advient-il des situations où il n'y aura pas d'APM, enfin pas de reliquat, pardon. On voit que justement il y a un risque aussi de faire une extrapolation du reliquat. Nous pensons, mais bon, la publication reste à le démontrer et on peut vous aider là-dessus. C'est dire effectivement, on pense que en intégrant l'APM, on peut mieux modéliser l'estimation du reliquat et avoir plus de chances de tomber sur une variable un peu plus pertinente.
Il y a d'autres réactions dans la salle. Philippe.
Christian Walter, j'aurais voulu savoir si vous aviez aussi des résultats sur l'amélioration, par exemple, des pertes par l'essivage d'azote à la profondeur en intégrant ce type de raisonnement, l'émission des reliquats. À la fin du cycle de culture, voilà, sur une vision un peu environnementale de la gestion de l'azote, est-ce que vous avez des résultats significatifs sur l'intérêt de prendre en compte cette analyse ?
Tu veux faire une réponse ?
Plutôt une réponse pratique, oui, effectivement. Parce qu'en fait, ce que fait l'outil en amont, il fait aussi en sortant. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on redémarre une campagne de plan prévisionnel, l'outil commence par faire donc le calcul du reliquat. Sortie récolte. Et ça, c'est un véritable outil pédagogique. Et je pense qu'on réglera, et nous réglerons ensemble les soucis environnementaux, non pas avec des outils hyper précis à la culture, mais plutôt pour des approches système. Et le fait de calculer, d'estimer plutôt un reliquat post-récolte, sitôt à récolte, ou dans les semaines qui suivent, permet déjà de sensibiser l'agriculteur à dire, voilà, il faut peut-être pas que je laisse mon sol nu, il faut peut-être que je mette plutôt un colza qu'un sol nu, ou que je mette un couvert végétal que des repousses de céréales. Je pense que ça, c'est aussi, on peut s'en servir comme cela, et c'est ce qu'on fait plutôt aujourd'hui. Là.
Je pourrais juste compléter, on fait les démarches d'évaluer sur les bases de données EPICLES. On la pousse pas forcément jusqu'à la démarche d'analyse statistique, mais on fait une observation des bases de données déployées chez les coopératives.